Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Aggredisci.
Passata forte. Che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Cinéphile d'Ardèche et de l'univers, bonjour. Et oui, je sais qu'on nous écoute depuis Bruxelles, capitale de l'univers. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler en compagnie de Cathy et Didier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
De beaucoup de films. Programme très riche cette semaine. On va donc essayer de parler de La femme de Tchaïkovski, de La grande magie, de Interdit aux chiens et aux Italiens, de La montagne. Si on a le temps, dire un mot d'Aftersun et peut-être des années Super 8, on verra. On parlera aussi en fin d'émission, bien sûr, de l'actualité du cinéma. Et puis on salue Olivier qui a fait ses exercices de culture physique et cinématographique et qui a vu L'astronaute et Maurice, un chat fabuleux, mais qui ne pourra pas être là pour en parler, donc on verra s'il nous reste du temps pour en dire un mot. Mais avant ça...
Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas.
Vous aurez reconnu Porque te vas de Jeannette, musique culte de Cría Cuervos de 1976 de Carlos Saura.
Oui, donc Carlos Saura, on tenait à saluer la mémoire de Carlos Saura qui est parti la semaine précédente et dont la disparition n'a, c'est le moins qu'on puisse dire, pas fait la une de la presse, et c'est assez malheureux parce que c'était un des très grands cinéastes européens et un peut-être des plus grands cinéastes espagnols. Donc évidemment Cría Cuervos qui est son plus grand succès, on peut le dire, mais aussi des films comme Anna et les loups et toute la fin de sa carrière qu'il a consacrée au flamenco à travers de très nombreux documentaires, dont Carmen, voilà, magnifique. Donc une pensée pour Carlos Saura.
Qui est mort le 10 février. Merci d'avoir parlé de ce grand cinéaste. On commence avec les critiques de cinéma et on part dans la Russie du 19e siècle.
Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. Знаете, Петр Ильич, того дня, что я хочу только одного.
Беги от него.
Мне оперу надо закончить. А эта суета страшно отвлекает.
Ему женщины вообще не нужны.
Никто не смеет у меня отнять тебя, потому что ты мой муж.
Отдохнуть надо и оперу закончить.
А гений мне не под силу. Они раздавят меня своими речами.
Я принадлежу тебе и душой тела.
La femme de Tchaïkovski par les par Kirill Sebrennikov, le réalisateur de La fièvre de Petrov, que vous aviez projeté aux dernières rencontres des cinémas d'Europe, qui était en compétition à Cannes l'année précédente. Alors un film noir, fiévreux, austère et flamboyant, onirique, convulsif, cauchemardesque, c'est ce que j'ai lu dans les critiques. Hein. J'ai quand même lu un plus tiède que ses précédents films. Alors Didier, Cathy, vous l'avez vu? Comment vous l'avez reçu?
Alors, je trouve que ce que tu viens de dire, austère et flamboyant, ça justifie vraiment, ça présente très bien le film, parce que c'est difficile d'être à la fois austère et flamboyant, et c'est exactement ça. Donc c'est le nouveau film de Kirill Serebrennikov, donc qui est un cinéaste russe, on peut dire un dissident russe, puisqu'il n'est pas vraiment le bienvenu à Moscou en ce moment, même si il est allé tourner ce film en Sibérie, dans des conditions de secret absolument absolu, puisqu'on dit que même la production n'avait pas le droit de rentrer sur le plateau. Donc il vit à Berlin, par ailleurs, en ce moment.
Le film ne sera pas distribué, d'ailleurs, en Russie.
Ah non, ça c'est absolument évident. Tout pendant que le régime actuel sera au pouvoir, c'est évident qu'aucun film de Serebrennikov ne sera projeté en Russie. Donc pour revenir un petit peu en arrière, on peut citer les films précédents, donc le Disciple sur un ado fou de Dieu, Leto qui mettait en scène la scène rock justement des années 80 en Russie, et puis plus récemment La fièvre de Petrov, qui était aussi un film flamboyant, un film assez incroyable, une nuit de délire, où un auteur de BD erre dans la ville entre fièvre et alcool, on pourrait le dire, là, vraiment, à l'image de la société russe. Pourquoi Serebrennikov est interdit de séjour, je ne sais pas, je pense que peut-être ils aimeraient bien le mettre en prison, mais pourquoi il a ce statut en Russie? C'est d'une part à cause de ses déclarations et de ses prises de position, mais aussi, et là on rejoint le film, à cause de son homosexualité. On sait que, j'ai retrouvé ça là, une loi très récente vient de déclarer, alors j'ai plus les termes exacts en tête, mais totalement hors la loi et puni extrêmement sévèrement les comportements déviants allant contre le sens de la famille ou des choses comme ça, voilà. Et c'est aujourd'hui, bon, on sait bien aussi que les mouvements LGBT sont complètement interdits et spoliés en Russie. Alors pour revenir au film, donc La femme de Tchaïkovski, le film porte bien son titre, ce n'est pas un biopic sur Tchaïkovski, mais une vision de la vie de Antonina Tchaïkovski. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle, Antonina est une jeune femme qui rencontre un peu par hasard Tchaïkovski dans une soirée mondaine, et en tombe immédiatement amoureuse. Et elle va tout faire pour l'épouser, contre sa volonté presque. Mais Tchaïkovski étant homosexuel, c'est pas très bien vu dans la société de l'époque. Donc pour se refaire une réputation, il va accepter ce mariage. Puis en plus, elle arrive avec une dot, enfin une promesse de dot, ce qui n'est pas non plus pour lui déplaire. Très très vite, enfin immédiatement, même ce mariage va être pour Antonina un cauchemar. Elle va être totalement rejetée. Et c'est là que le personnage est assez fabuleux, à la limite de l'érotomanie même. Elle ne va pas accepter ça, et toute sa vie, elle va se battre pour avoir ce titre, je suis la femme de Tchaïkovski. Ce mariage, qui devient un enfer, un véritable enfer pour elle, est mis en scène par Serebrennikov d'une façon absolument incroyable. Alors le film est sombre, alors pas, évidemment c'est pas un film gay, c'est pas une comédie, mais sombre dans le sens où l'image alors c'est une sorte d'image pastel. On ne voit jamais le soleil, on ne voit jamais le ciel, on voit une sorte de brouillard, on voit quelque chose de sombre, des gens qui avancent dans ce fog, quelque chose comme ça, et qui est juste parfois éclairés, moi j'ai pensé à Barry Lyndon, éclairés par des bougies, par une lanterne à pétrole, voilà, mais les seuls lumière qui arrive dans le film, en fait, c'est le feu, ce sont les flammes. Donc on peut dire que ça rappelle quelque part cette espèce de sentiment extrêmement violent que Antonina éprouve pour son mari, malgré tout le rejet qu'elle a. La mise en scène est également remarquable par ces plans-séquences, qui sont des plans-séquences pour la plupart en surplomb, qui sont alors virtuoses, absolument incroyables. Et en particulier, je terminerai là-dessus pour laisser Cathy reprendre derrière moi, en particulier, et je pense que rien que pour ça, pour ce film qui dure 2h23, s'il y a une bonne raison de le voir, et il y en a des centaines, mais vraiment s'il y en a une, c'est le plan séquence final qui est absolument virtuose, incroyable, et qui résume quelque part tout le film en 6 ou 7 minutes. Voilà. Alors voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, la version officielle russe concernant Tchaïkovski, puisque Tchaïkovski, pour les Russes, n'était absolument pas homosexuel. C'est le ministre de la culture russe, il y a 2 ans avant l'Ukraine, qui disait que que l'homosexualité de Tchaïkovski était en fait une théorie sans fondement, que Tchaïkovski était tout simplement un monsieur solitaire qui n'avait pas trouvé la bonne personne pour lui tenir compagnie. Voilà.
On pourrait en rire.
Si ce n'était pas aussi dramatique, on pourrait en rire, tout à fait.
Cathy,
Didier, on a très très bien parlé. C'est vrai que c'est un film qui marque. Moi, je l'ai vu il y a plusieurs mois maintenant, mais on est très impressionné. Mais bah, dès le départ, quand on suit la filmographie de ce réalisateur par sa technicité, par cette maîtrise des plans séquences, c'est vrai qu'il y en avait aussi dans La fièvre de Petrov, des plans incroyables, et là effectivement on en retrouve aussi énormément, et puis on est marqué à la fois par cette technicité, et puis par rapport à l'histoire aussi, l'ampleur que prend cette histoire, et tout l'amour de cette femme pour cet homme. Et il n'y a pas d'échange, en tout cas, il n'y a pas de retour. Et c'est comment elle va vivre avec ça ou ne pas vivre. Et puis on est marqué par la société aussi russe à l'époque, où on entend beaucoup parler français, où on voit que c'était le must, hein, de maîtriser cette langue française. C'était très important dans cette société, enfin la haute société, on va dire.
La langue de la diplomatie.
La langue de la diplomatie. Et c'est, oui, c'est un film qui a une sobriété. C'est vrai que c'est ce paradoxe entre cette sobriété quand même qui nous est montrée à l'image, où il y a effectivement peu de couleurs. On est dans un... On a un souvenir très, très sombre de tout ça. Et en même temps, il y a, oui, cette flamboyance. C'est vraiment un très, très, très grand réalisateur, hein. Serebrennikov. J'avoue que... Bon, La fièvre de Petrov, c'était une adaptation littéraire. Mais bah, depuis l'étau, en tout cas moi je suis plus depuis l'étau que le disciple, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler.
C'était plus traditionnel comme mise en scène, plus classique, je dirais, mais c'est un film magnifique également, exceptionnel.
On touchait peut-être plus à l'austère qu'à la flamboyance avec le disciple.
Et si je me permets juste une petite comparaison, moi j'ai beaucoup pensé aussi à une autre femme qui a vécu un peu la même histoire à la même époque et qui a été mise en scène par François Truffaut, c'est Adèle Hugo. Et on n'est pas si loin que ça de Adèle H. Alors dans la mise en scène, absolument pas, mais dans le propos, il y a quelque chose, ce sont presque deux sœurs de la même époque.
C'est vrai, intéressant. La femme de Tchaïkovski, donc c'est à voir au cinéma Le Navire toute cette semaine. Et on continue avec une autre musique.
Quand je refermerai le cercueil, vous disparaîtrez. Hey! Cagarines de les fines, ensaimades de cavalls, peus suats. Hey! Oh!
Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme?
Qu'est-ce qui se passe?
Il est parti.
Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte.
Oh, les mains, que personne ne bouge, au nom de la loi, ouvrez.
Il dit que ma femme est à l'intérieur.
Il s'est enfui.
Avec son amant.
Il est cocu. Et vous trouvez un indice? Surtout, ne touchez à rien.
Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous paye pour votre spectacle. Bravo. Vive les artistes.
Compagnon de mauvais jour, que vous soyez une bonne nuit. Ouais, je m'en...
Je vois un jeune homme sensible, courageux.
Il est très timide.
Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le premier pas.
Bravo.
Mon frère, je te dois la vérité.
Je vois clair dans ton jeu, mon pauvre ami.
Ce que tu veux, c'est mon argent.
J'ai pas tout compris.
Ça ne fait rien.
Au bord de la mer, la mauvaise joue. La mauvaise joue. Compagnon de la mauvaise joue.
Je pourrais exiger des dommages et intérêts.
Nous aussi, nous pourrions exiger des dommages et intérêts pour clientèle défectueuse.
François Morel. On vient d'entendre Feu Chatterton qui a composé la musique de La Grande Magie, film de Noémie Lvovsky qui avait fait l'ouverture des dernières rencontres des cinémas d'Europe. Alors les avis dans la presse sont un peu plus mitigés parmi les spectateurs aussi. Alors toi Cathy, donc, qui avait porté ce film d'ailleurs à l'ouverture, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Ah bah, le film La Grande Magie... C'est pas un film qui va à la simplicité, et moi c'est ça qui m'a séduit pour le mettre en ouverture. Et c'est bien qu'il y ait des réalisatrices et des réalisateurs qui, en matière de cinéma, ne nous servent pas toujours le même film, savent prendre des risques,
osent
à la fois raconter des histoires et les mettre en scène et nous les amener comme ça avec toute leur avec leur trip, quoi. Voilà, je trouve que Noémie Lvovsky elle fait ça. C'est quelqu'un qui tourne qui a une filmographie elle-même très éclectique, qui peut tourner dans des choses plus ou moins pointues, et c'est ça aussi que j'aime chez elle. Et dans La Grande Magie, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est ce côté hommage qu'il y a aussi aux saltimbanques, à l'art du spectacle, au cinéma, à Méliès, à tous ces gens qui nous font aussi rêver, qui nous font réfléchir. Et puis il y a une interprétation de par les acteurs aussi qui est fantastique. Il y a un casting avec Denis Podalydès, Sergi Lopez qui était là aussi. Et franchement, au niveau de l'ouverture, on a senti un truc, quoi. C'était vraiment génial cette année. Cette envie qu'il y avait de porter les gens au cinéma, puisqu'on est parti du Centre Le Bourneau jusqu'au navire pour ce film d'ouverture, et on a senti, il y avait 400 personnes, quoi, qui ont eu envie de cette magie. Et ça, moi, c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Il fait plaisir à toute l'équipe, c'est qu'on s'est laissé embarquer. Alors peut-être que le film peut effectivement décevoir, il y a des choses qu'on prend et d'autres qu'on n'a pas envie de prendre, mais la magie, elle était là. Donc l'histoire, ça raconte quoi?
Parce que c'est bien quoi, quand même Cathy, de le dire. Parce que tu n'es pas Olivier.
Je ne suis pas Olivier.
Donc, qui oublie quelquefois de raconter l'histoire.
Alors, ben oui. Là, on est dans les années 20, voilà, en France. On commence dans un hôtel au bord de la mer où un spectacle de magie va être présenté. On ne voit pas qui est le magicien. On a la troupe, mais on ne sait pas qui est le magicien. Mais on nous vend quand même du rêve autour de ce personnage qui va être interprété par Sergi Lopez. Et on découvre un couple dont le mari est extrêmement jaloux et une jeune femme qui ne sait pas comment trop se sortir de là. Et il se trouve que dans le spectacle du soir, le magicien propose un tour de magie où la jeune femme va disparaître. Et le fait est qu'elle disparaît vraiment. Et là, le mari se retrouve sans sa femme et il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Où est-elle? Va-t-elle revenir?
Et bien non.
On ne sait pas. Enfin,
mais non.
Sophie.
Mais en plus, je n'ai pas vu le film, alors.
Voilà, tout part de là. Donc, le magicien va lui remettre une boîte à ce mari jaloux en disant, ben voilà, ta femme, elle est là-dedans. Alors après, il y a un savoureux aussi, une imagination débordante de la part de à la fois l'écriture de Noémie Lvovsky et de l'interprétation de Sergi Lopez. Mais il dit, voilà, ta femme est dans cette boîte. Par contre, il ne faut surtout pas que tu l'ouvres tant que tu n'as pas confiance entre ta femme et entre et dans ce qu'elle a pu devenir et là où elle est. Donc après c'est une longue voilà un long travail sur soi, sur ce mari jaloux, de comprendre pourquoi éventuellement sa femme aurait disparu. Et voilà, moi, je trouve ça vachement génial comme histoire.
Ça me donne très, très envie de le voir, moi.
Ah bah, il faut aller le voir, bien sûr.
Et sur cette frontière de fiction et de réalité. Mais tu as raison, d'ailleurs. Hein, on ne va pas au cinéma pour voir des films tièdes. On y va pour voir des propositions, pour essayer, pour expérimenter. Hein, c'est vraiment le
lieu pour ça. Ça, c'est vraiment une proposition de cinéma. Ouais.
À voir au cinéma Le Vivare à Privas toute cette semaine, la grande magie. On poursuit avec un autre type de magie visuelle qui mêle art, bidouillage, fiction, réalité. Là aussi, hein, ça, une proposition un peu hybride avec Interdit aux chiens, aux Italiens. On passe pas la bande-annonce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Interdit aux chiens, aux Italiens, donc il s'agit d'une animation en pâte à modeler, filmée image par image, qui a été récompensée au Festival du film d'animation d'Annecy, un film poétique et engagé, une histoire de transmission aussi. Vous l'avez vu tous les deux?
Oui.
Alors, qui veut en parler d'abord?
Vas-y, comment?
Je veux bien. Moi, alors, ce film, déjà, j'ai commencé par dire, c'est un véritable petit bijou. C'est un film magnifique. C'est un film d'animation, mais qui ne s'adresse pas aux tout petits. Mais ceci dit, à partir de, je ne sais pas ce que tu dirais, toi, Cathy, moi, je dirais à partir de 9 ans, 8, 9 ans, on peut très bien emmener ses enfants voir ce film de Alain Huguetto, qui, en fait, parle de l'immigration italienne en France au début du siècle dernier, illustré par l'histoire de la famille Huguetto, donc du grand-père, le patriarche. Donc en France, on a besoin de main-d'œuvre pour ses constructions, les ponts, etc. En Italie, c'est très compliqué à l'époque, donc on sait bien qu'il y a une immigration qui est arrivée à cette époque-là. Et si aujourd'hui, les Italiens en France sont totalement intégrés, c'était pas franchement le cas, d'où le titre Interdit aux chiens et aux Italiens, qui est une pancarte qu'on voit à l'entrée d'un café, voilà. Qu'on retrouve d'ailleurs. On change italien par arabe aujourd'hui et on peut le retrouver dans certains coins fort malheureusement. Donc c'est le petit-fils qui réalise ce film, qui est un film familial et qui nous offre cette histoire. Alors c'est un sujet assez grave, c'est quand même un sujet sur la pauvreté, sur des gens qui arrivent en France pour reconstruire le pays et qui se font pas forcément très bien recevoir, mais c'est traité avec énormément de comédie. Moi ça m'a beaucoup fait penser à la comédie italienne des années 70, avec des personnages réels du genre L'argent de la vieille, Affreux, sale et méchant, etc. On retrouve un peu cette verve, c'est-à-dire sur un fond assez grave, on va continuer à être un peu excentrique et un peu exagéré, voilà. L'animation, alors, elle est absolument fabuleuse et alors, ce sont les personnages sont des marionnettes animées en stop motion, mais on trouve vraiment des astuces, voilà, c'est du bidouillage, c'est bricolé. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec une tête de brocoli? Vous voyez, est-ce que c'est une tête de brocoli? On fait un arbre, voilà. Il y a beaucoup de
contournements poétiques.
On détourne tout. Ça m'a beaucoup fait penser aussi au film de l'autre Podalides, Bruno, qui a beaucoup de petites inventions comme ça. Construire un mur, avec quoi on construit un mur? C'est des briques de sucre, voilà. Et tout le film fait appel à cette imagination, à cet imaginaire. Le bois, c'est des bouts de carton, voilà. En fait, c'est un film de récup presque aussi, hein. On pourrait dire ça. Et c'est fait avec énormément d'intelligence et de sensibilité. Et c'est vrai que moi j'engage absolument tout le monde à aller voir ce film. Vous ne le regrettez pas, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un des très beaux films du moment.
Cathy, vous l'aviez aussi.
Oui, il était programmé aux Rencontres des Cinémas d'Europe. C'est un film en plus Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est important aussi de défendre ces films qui sont produits ou même réalisés là en région. Et c'est vrai que Alain Huguetto revient sur son histoire familiale et on sent bien à travers le film son côté aussi artisans, fabricants, comme tu le disais si bien, sa façon qu'il a, lui, sa vie pour raconter des histoires et son travail par rapport au cinéma d'animation et à cette fabrication-là. Après, c'est relativement fort et assez triste quand même comme histoire, on va dire. Et c'est pour ça que, bon, les tout-petits, c'est pas forcément pour eux. Mais ouais, jusqu'à partir de 10 ans, peut-être, c'est plus simple. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de répétitif et de récurrent dans son histoire, hein, puisque c'est comment ses grands-parents ont quitté l'Italie, traversé les Alpes pour venir en France et tout ce que ça a comporté avec les guerres, etc.
La période de la guerre
la mort qui est quand même assez présente. Mais ça, justement, il a trouvé un process quand même plus léger aussi dans la narration, où il n'y a pas que de l'animation. Ça, on ne va pas vous en dire plus, comme ça vous découvrirez. Mais lui-même se met, on va dire, en scène, même si on ne le voit pas forcément. Puis il y a sa voix qui est là, qui est vachement agréable. Et puis le personnage de sa grand-mère, quoi, qui est très fort, évidemment, qui marque, qui est une des héroïnes importantes et une femme importante de sa vie.
Saisira, qui était doublée par Ariane Ascaride, d'ailleurs. Interdit aux chiens aux Italiens, on peut le voir au cinéma Le Regain au Teil, cette semaine et la semaine prochaine, au cinéma Le Vivarais de Privas et au foyer de Rosières, ce soir à 18h. Courez-y, voire interdit aux chiens et aux Italiens. On poursuit dans les formes un peu hybrides avec La Montagne, de et avec Thomas Salvador et Louise Bourgoin. Enfin, avec Louise Bourgoin. Thomas Salvador, c'est lui qui avait réalisé Vincent n'a pas d'écailles. Déjà un film qui pratiquait le décalage des genres. Alors, j'avais envie de dire qu'il était au Festival du film fantastique de Gérard Mer, mais du coup, ça en dit déjà un petit peu sur la nature de l'hybridation. Et dire qu'à ce même festival, il a obtenu le prix du jury ex aequo avec Piaffe, je ne sais pas comment on prononce, un film allemand, et qu'il a aussi enthousiasmé les critiques. Alors, c'est intéressant, qu'est-ce qui les a emballés? Et vous, est-ce que vous avez été emballé par La Montagne?
Alors, j'avais vraiment énormément aimé Vincent n'a pas d'écailles. Et là aussi, quand je parlais tout à l'heure de gens qui osent et qui vont pas à la facilité pour faire du cinéma, vraiment Thomas Salvador, c'est quelqu'un qui est dans cette lignée là. Donc j'attendais énormément du film La Montagne. Alors, je suis beaucoup moins emballée peut-être que ce qu'il nous a proposé sur Vincent n'a pas d'écailles. Après, c'est un film qui nous amène vraiment dans quelque chose qu'on maîtrise pas, où effectivement, à un moment, le spectateur se laisse porter plus par l'image que par l'histoire qui est racontée, parce que l'histoire, bon, c'est un mec qui va faire un séminaire ou qui va présenter un truc de sa boîte, alors c'est où? C'est à Grenoble.
C'est dans les Alpes, en tout cas.
Oui, en tout cas dans les Alpes. Et puis subitement va décrocher, va voir la montagne, va voir va être très attiré par elle. Et donc se dire je plante tout et je vais faire une rando et je vais, enfin bon. Et là, il se passe un truc. Le film, à un moment, quitte un peu juste ce fait-là, se dire, un mec qui quitte son boulot et qui dit, je vais vivre autre chose. Et puis, je suis attiré par ce lieu, ce site et la montagne. Et là, on part dans un truc qu'on ne maîtrise plus. Enfin, je trouve que le spectateur ne maîtrise plus. Et puis, il y a quand même un retour un peu à la réalité, parce qu'effectivement, personne ne le comprend, notamment sa famille, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous ?» Il y a la rencontre avec aussi Louise Bourgoin.
L'épicière ou la boulangère, je ne sais plus exactement.
Et puis il y a la... Ah bah oui, je sais plus ça, tu vois, j'ai oublié, mais je me souviens de plutôt la rencontre avec la chef du restaurant, où on sent qu'il y a une petite histoire qui pourrait se faire. Donc il a quand même le don pour faire quelque chose d'assez curieux. d'assez subtil aussi, certainement. Je ne sais pas ce que Didier
dire. Oui, c'est moi, j'ai été un peu désarçonné quand je l'ai vu aussi la première fois. Le moins qu'on puisse dire, effectivement, que c'est un drôle d'objet cinématographique qui part comme un film absolument traditionnel. Effectivement, un ingénieur va présenter son travail, bon, ça arrive tout le temps, il va passer un week-end dans la montagne, et puis la montagne le happe et il ne veut plus en descendre. Bon, ça, c'est un peu traditionnel, je dirais, sauf qu'à un moment, le film va basculer dans le fantastique, hein, sans qu'on ne comprenne pas bien ce qui se passe, et sans vouloir raconter l'histoire, on peut dire qu'il va être digéré par la montagne et renaître de la montagne, voilà. Alors c'est exactement ce que tu as dit. Moi je trouve ça très très intéressant parce que c'est une autre proposition de cinéma, c'est quelque chose qu'on voit pas et c'est vrai que parfois, y compris plus souvent dans le cinéma français, on a des films intéressants, mais on se dit bon sang, j'ai déjà vu ça 15 fois et tout. Ça c'est sûr qu'on l'a jamais vu quoi. On est très très surpris. Après mais le film veut ça, c'est très contemplatif. C'est-à-dire, il est dans la montagne, il ne se passe rien, quoi. Il se passe rien, il fait froid, il neige, il attend, il ne bouge pas, puisque c'est le thème du film, c'est « je suis dans la montagne, je suis la montagne ». Donc c'est parfois un peu long, ça dure 1h50 pour le spectateur. Mais si on a vraiment envie d'aller au cinéma pour voir autre chose, pour être dépaysé, pour découvrir quelque chose de nouveau, bon, dans Vincent, on n'a pas d'écaille, l'élément, c'est c'était l'eau, là c'est la terre, la montagne. Bon, peut-être que la prochaine fois il nous fera quelque chose
sur
le feu ou l'air, je sais pas. Alors il y a quand même quelques séquences, tu l'as dit, qui se déroulent hors de la montagne, et c'est vrai que la séquence de la famille qui vient le voir et qui l'invite au restaurant, qui vient le voir pour le décider à arrêter ses conneries, voilà, en disant ben maintenant c'est bien, tu vas perdre ton boulot, tu vas tout perdre. Alors lui, il est déjà mis le lieu de tout ça et du frère. Alors il y a deux frères, il y en a un qui comprend, qui dit mais foutez-lui la paix, et l'autre qui enrage, quoi, qui comprend pas. Donc heureusement qu'il y a quelques séquences comme ça qui nous rattachent un peu à la terre, voilà. Mais c'est un film très intéressant, je dirais peut-être 15 minutes de moins sur les scènes de montagne, mais en tout cas pour les amateurs de montagne, ça va énormément leur plaire parce que c'est vrai que c'est magnifiquement filmé.
Ah, il y a des plans magnifiques, ouais, ça c'est sûr.
À voir à Privas à partir de mercredi prochain et à Rosières, la montagne. Alors il nous reste pas de temps. Alors soit vous voulez dire un mot de After Sun, soit des années Super 8 et on passe à l'agenda.
On dit deux mots des deux.
Dis un mot sur After Sun, moi je dirais un mot sur Super 8. Ouais.
Non, mais After Sun, c'est un premier film de Charlotte Wells. C'est un film qui peut être dans la lignée, qui a plein de références, en tout cas, à des femmes cinéastes. Et on est sur quelque chose de peut-être où il ne se passe pas grand-chose, mais en tout cas, c'est le temps d'un été entre un père et une fille qui partent au bord de la mer, enfin, en tout cas, là, en Turquie, dans une station balnéaire. C'est un film qui est plein de non-dits, mais dans lequel il se passe plein de choses. Et c'est un une très belle surprise.
Tu le conseilles, et c'est à voir au cinéma de Rue 11 pour l'instant, mais avec pas mal de séances.
Les années Super 8, années très Super très 8. Rapidement. Donc Annie Ernaux, qu'on ne présente plus, prix Nobel de littérature l'année dernière. C'est un film qui ressemble à ses livres, c'est-à-dire c'est un film qui mêle l'intime et l'histoire, comme elle a toujours écrit. Et là, c'est à partir des bobines Super 8 que son mari tournait entre le début des années 70 et le début des années 80. Donc elle raconte à la fois son histoire, qui est toujours un peu sur le même ton, hein, c'est-à-dire une transfuge d'une classe populaire relativement en bas de l'échelle, parent ouvrier, puis petit commerçant, qui est devenu, on peut dire, CSP+, comme on dit, dans le langage moderne, avec ce décalage entre ses origines et ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est toujours très réussi. Elle a, juste pour terminer, s'est commis en scène avec son fils.
Les années Super 8, à voir au Vence, par exemple, mercredi. Voilà. On passe à l'agenda ce week-end parce qu'il y a un quadruplé gagnant, un gros coup de cœur apparemment parmi les gens qui font vivre les salles de cinéma en Ardèche. C'est Grand Marin, film franco-islandais de Dinara Druck. Drukarova, pardon, excusez-moi. Je pense que vous ne l'avez pas encore vue. Alors, elle vient présenter son film dans 4 salles d'Ardèche ce week-end. Elle va peut-être avoir un coup de cœur pour l'Ardèche. Donc, c'est ce soir à 18h30 à Barjac ou à 20h15 au Vence, samedi à 20h à Ruons, ou dimanche à 17h à Privas. Faites votre choix. En tout cas, vous aurez l'occasion de rencontrer la réalisatrice. Juste pour vous dire un mot, pour vous donner l'envie, et on se quitte là-dessus. D'après ce que j'ai pu en lire, c'est un grand film sur la mer, entre réalisme et onirisme, mais aussi une ode à la féminité, un bel hommage au métier de la pêche, tout ça dans une superbe lumière qui a été créée par le fidèle compagnon de route d'Aki Korismaki, le chef-op Timo Salminen. Voilà, le grand marin, donc allez le voir pour découvrir aussi, rencontrer la réalisatrice. Merci beaucoup.
Oui. Ah oui, c'est dans le cadre d'une tournée organisée par l'association Les Écrans Drôme Ardèche. Voilà.
Merci la précision, Cathy. Bon film à vous ce week-end. Merci Sylvain à la réalisation. Et on se retrouve vendredi prochain pour parler du cinéma japonais. À vendredi.